Laudetur Jesus Christus.
Pour la première fois, un pape a pris part à un sommet du G7 devant les pays les plus industrialisés au monde. François était invité à s'exprimer sur une des thématiques clés de la rencontre, l'intelligence artificielle. L'outil est fascinant et redoutable, a dit François, qui plaide en faveur d'une interdiction des armes autonomes létales. On y revient. Dans les poules, les dirigeants américains, allemands ou japonais étaient appelés à se prononcer sur les grandes crises du moment. Nous verrons pour quelles conclusions bidon de ce G7 dans ce journal. Et puis enfin, il était en résidence surveillée depuis sa chute au Niger. L'ancien président Bazoum sera sans doute jugé pour haute trahison. La justice a levé son immunité.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. L'humanité ne doit pas dépendre du choix des machines au risque de perdre espérance et dignité. C'est l'appel du pape lancé ce vendredi à la table donc du G7 dans les Pouilles en Italie. Pour la première fois, un pape a donc participé à ce sommet intergouvernemental. François assis entre Giorgia Meloni et Emmanuel Macron, entouré des présidents américains, indiens, argentins ou encore du chancelier allemand, a présenté sa réflexion sur les effets éthiques, anthropologiques et sociaux de l'intelligence artificielle, l'IA, sur l'humanité. Un fil rouge, Delphine Arel. À l'air, la centralité de la personne humaine.
Oui, Marie Fraisse, au prodige des machines, à cet outil aussi fascinant que redoutable qu'est l'IA et dont le Vatican suit le développement depuis plusieurs années, le pape nourrit quelques craintes, dont l'une essentielle est que le pan génératif de cette technologie ne compromette la culture de la rencontre au profit d'une culture du rejet, accentuant inégalité et injustice en dépit de ses bienfaits. Comme chaque outil depuis la nuit des temps, François rappelle que l'usage est bien sûr déterminant. Concernant l'IA, il constate que celui-ci n'est pas toujours orienté vers le bien. Or, notre condition humaine est faite de liberté et responsabilité, donc d'éthique. L'évêque de Rome insiste donc sur l'impérieuse nécessité de laisser toujours à l'homme le dernier mot, la dernière décision, non à la machine. Une vieille dialectique, certes, mais remise au devant des priorités pour l'Église catholique, alors que l'IA s'impose à présent dans les conflits armés avec des armes létales ou dans les tribunaux pour jauger les récidives, regrette François. Nous condamnerions l'humanité à un avenir sans espérance si nous condamnons les gens à dépendre des choix des machines, dit-il.
Et alors comment, Delphine, peut-on considérer cet outil majeur de l'époque ?
Eh bien, le pape exhorte les décideurs à garantir et protéger un espace de contrôle humain significatif sur le processus des choix des programmes d'intelligence artificielle, car la dignité humaine elle-même en dépend. François rappelle que l'IA n'est pas un autre être humain. Sa méthode algorithmique n'a ni objectivité ni neutralité. Elle n'examine que des réalités formulées en termes numériques et risque en cela d'amplifier fausses nouvelles et cultures dominantes, de saper tout processus éducatif. Alors, pour conjurer ce paradigme technocratique, le pape appelle à une saine politique et à l'algorithmique, concept dont le Vatican parle depuis quelques années. Il s'agit de se saisir de cette occasion technologique pour remettre la dignité de la personne au centre d'une proposition éthique, alors que celle-ci semble, selon lui, s'éclipser totalement en Occident. C'est tout le sens de l'appel de Rome pour une IA éthique signée en 2020, Marie, par le pape, divers responsables religieux du monde entier et des entreprises de la tech.
Merci Delphine Allaire. Et puis le pape François a pris part à la session donc ouverte aux États non membres du G7 tels que l'Inde, la Jordanie, l'Argentine, le Brésil. Certains de ses dirigeants se sont d'ailleurs entretenus avec François ou s'apprêtent encore à le faire. On note d'ailleurs de premiers entretiens bilatéraux entre le souverain pontife et les présidents kényans ou encore algériens. En tout, François aura parlé avec 9 chefs d'État et de gouvernement, dont les présidents américains, français et ukrainiens. Sur Telegram, Vladimir Zelensky revient sur son audience. Il a confié à François ses attentes avant le sommet mondial pour la paix qui se tiendra ce week-end en Suisse. Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin y prendra part. Dans les Pouilles, les 7 pays les plus industrialisés au monde ont donc tenté d'accorder leur position sur les sujets d'actualité les plus brûlants. Que contiendra leur projet de déclaration finale ? On le sait désormais. S'il y a eu des frictions entre la France, les États-Unis et l'Italie sur la mention de l'avortement, il y a eu en revanche consensus sur plusieurs sujets concernant la Chine et l'Ukraine. Justement, la correspondance de Blandine Hugonnet.
Dès l'ouverture, Giorgia Meloni, qui préside le sommet, avait promis des résultats concrets sur les thèmes de ce G7. Et le communiqué final fait consensus, assure l'Italie, comme sur la Chine, qui reçoit un avertissement pour ses pratiques productives et commerciales néfastes pour les marchés occidentaux. Pékin, que le G7 appelle aussi, a cessé de fournir des matériaux qui alimentent l'armement de Moscou. La solidarité avec l'Ukraine était d'ailleurs au cœur de ce sommet, avec la présence du président Volodymyr Zelensky hier et une décision forte. Une somme de 50 milliards de dollars sera débloqué pour aider Kiev grâce à un mécanisme financier pour faire fructifier les avoirs russes confisqués. Un pas historique selon le G7 qui promet un soutien aussi longtemps que nécessaire à Kiev. Soutien aussi à un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Dans le document final, les leaders considèrent fondamental que les agences de l'ONU puissent opérer sans entrave à Gaza pour les civils en crise humanitaire. Pour l'Afrique, priorité de l'agenda de Giorgia Meloni, la chef de l'exécutif italien a tout simplement intégré son plan de coopération avec le continent africain dans les conclusions de ce G7. Un sommet que Rome a voulu ouvert au reste du monde ce vendredi avec 12 dirigeants invités eux aussi à trouver des réponses aux crises mondiales. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
Et notre correspondante y a fait allusion à ce gigantesque prêt de 50 milliards de dollars accordé à Kiev et financé grâce aux avoirs russes gelés. La Russie promet ce soir de réagir à ce qu'elle considère comme un vol. Et puis ce vendredi à la veille donc du sommet organisé en Suisse sur l'Ukraine, alors que les troupes russes sont en position de force sur le terrain, le président Vladimir Poutine a énoncé ses conditions pour déposer les armes. L'Ukraine doit remettre les quatre régions de l'Est à Moscou, doit renoncer à rejoindre l'OTAN ou l'UE et doit se désarmer. Des revendications défiant le bon sens, dit Kiev, qui rejette ces propositions, appuyées d'ailleurs par le chef de l'Alliance Atlantique et le secrétaire américain à la Défense. Il est l'émissaire du pape pour la paix en Ukraine, mais se trouve en ce moment en Terre Sainte. Le cardinal italien Matteo Zuppi, l'archevêque de Bologne, est venu porter un geste de compassion aux familles d'otages israéliens. 116 personnes sont encore retenues à Gaza, mais aussi bien sûr aux Palestiniens, aux chrétiens qui souffrent notamment dans les territoires, mais aussi en Israël, en raison de l'absence de pèlerins. Et puis concernant Gaza, le bilan des morts augmente encore, plus de 37 250 morts en 8 mois. Des frappes israéliennes se sont abattues dans le nord, le centre de l'enclave aujourd'hui, bien que l'armée concentre ses opérations à Rafah. Le G7 souhaite que les agences de l'ONU, dont l'UNRWA, puissent opérer sans entrave sur place. Washington sanctionne d'ailleurs ce soir des extrémistes israéliens accusés de nuire aux livraisons d'aide. Aux États-Unis, il sera désormais possible de surarmer son fusil semi-automatique pour en faire une mitraillette. À quelques mois de la présidentielle et malgré les récentes fusillades, les juges de la Cour suprême reviennent à 6-3 sur une interdiction fédérale imposée au bump stock, un accessoire permettant donc de tirer en rafale. Suite des européennes en France, après la dissolution, le pays subit sa pire semaine sur les marchés depuis 2022, moins 6% à la Bourse de Paris ce vendredi. Dans la perspective cette fois des législatives, la nouvelle coalition de gauche a détaillé son programme aujourd'hui. Programme dit de rupture totale, négocié au prix de compromis sur l'Ukraine ou le Proche-Orient. Quant à l'extrême droite, elle promet de son côté d'un gouvernement d'union nationale en cas de victoire en juillet. Ce week-end, de 21 000 policiers et gendarmes sont mobilisés lors de manifestations contre le RN. Et puis le séisme politique en France n'entraînerait pas, en tout cas, d'annulation aux JO de Paris. C'est ce qu'affirment les professionnels du secteur du tourisme notamment. Et puisqu'on parle de Jeux Olympiques, le président du Comité international olympique annonce le lancement des Jeux Olympiques de l'e-sport, distinct des Jeux traditionnels, sans plus de précision. On prend maintenant la direction du continent africain au Niger. Ce vendredi, l'immunité du président déchu Mohamed Bazoum a donc été levée par la Cour d'État sur requête des autorités militaires. Renversée depuis juillet 2023 par un putsch, l'ancien homme fort pourra désormais être jugé pour des faits de haute trahison. Idrissa.
Avec cette décision, l'ancien président Mohamed Bazoum pourra être poursuivi et jugé par un tribunal militaire pour complot et attentat ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État ou à l'autorité de l'État et crime de trahison. Des accusations portées contre lui par les autorités militaires qui ont renversé son régime en juillet 2023. Y aura-t-il aussitôt poursuite ? Difficile pour l'instant de répondre à cette question. Les avocats de Mohamed Bazoum dénoncent l'avènement de l'arbitraire et la fin de l'indépendance du pouvoir judiciaire au Niger. Mohamed Bazoum est détenu depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 dans la résidence présidentielle avec son épouse. En décembre, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a ordonné sa libération, une demande qui restait lettre morte et le Niger a quitté en janvier la CEDEAO. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour Radio Vatican.
En Afrique du Sud, le Parlement issu des législatives fin mai s'est réuni aujourd'hui pour élire le chef de l'État. Le président sortant Cyril Ramaphosa devrait rester à la tête du pays. Il devrait aussi être question de la formation d'un gouvernement de coalition inédit qui devrait graviter autour du centre entre l'ANC et la DA, Centre libéral, le premier parti d'opposition. Et puis enfin, en Mauritanie, la campagne pour l'élection présidentielle du 29 juin a démarré aujourd'hui avec les 7 candidats dont le chef de l'État sortant, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazanawi.
Voilà,
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end.